Je pose la question, un chrétien peut-il être abattu? Un chrétien peut-il être abattu? Oui? Non? Et s'il l'est, que faut-il qu'il fasse, car il lui arrive de l'être? Que faut-il qu'il fasse? Deux questions importantes auxquelles nous aidera peut-être à répondre ce matin David, l'auteur inspiré du 31e psaume. Psaume que je vous invite à relire ce matin. Livre des psaumes, psaume 31. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, éternel Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains des ennemis. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel. Car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins. Et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Que les méchants le soient, eux. Qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous, ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous. Et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Notre objectif ce matin, revenir sur l'ensemble de ce poème émouvant pour tâcher d'en saisir ensemble et le sens et la portée. une étude en deux parties que nous achèverons, Dieu voulant, un dimanche prochain. Pour l'heure, je propose que nous nous intéressions surtout en un premier temps à l'expérience douloureuse dont ce chant est l'écho, et dans un deuxième temps au témoignage lumineux qu'il rapporte. Une expérience douloureuse. Lorsqu'il s'attaque à la composition de ce poème, David, c'est évident, traverse une période de crise particulièrement aiguë. Son admirable psaume est d'abord la douloureuse évocation d'une route difficile. Par deux fois, le roi a dû parcourir toute la distance qui sépare l'assurance de l'angoisse. Et il en est encore tout ému. Lui, l'élu, le favori du Seigneur, en même temps que son assez fidèle serviteur, il n'en finit pas, depuis quelque temps, de connaître toutes sortes de mésaventures, de déboires, de déceptions, d'angoisses, d'où ces appels répétés, verset 2, éternel, délivre-moi dans ta justice. Verset 3, viens vite à mon secours. Verset 6, je remets mon esprit entre tes mains. Verset 10, aie pitié de moi, éternel. Verset 16, délivre-moi. Verset 17, enfin, fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Comme quoi, on peut très bien être l'enfant chéri du Seigneur, la cible de sa bienveillante attention, et pourtant, connaître encore les pires détresses. Le Seigneur n'a jamais promis à ses fidèles une vie facile, exempte de toutes déconvenues, de tout malheur. Ce modeste rappel a son importance, pour nous déjà, qui trop souvent nous retrouvons totalement démunis face à une épreuve dont nous ne pensions vraiment plus qu'elle pouvait nous atteindre. Mais pour nous aussi, qui avons encore tendance à nous méfier un peu de nos frères et sœurs dans la détresse, surtout lorsque ça fait quand même un moment que ça dure. Comme si leurs angoisses étaient le signe inquiétant d'une foi déficiente. La protection dont ils jouissent n'épargne pas aux fidèles tous les mois, de loin pas. Mais revenons à David et à son expérience. D'où vient cette question que je pose, qu'il est ici comme écrasé par l'angoisse. « Je suis, dit-il, dans la détresse. » Versets 10 et 11. « J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit et mes os dépérissent. » Vous imaginez quelqu'un vous dire cela à la sortie du culte? C'est peu de dire qu'il n'a pas le moral. Il est anéanti. Anéanti. Mais pourquoi? Parce qu'au moment précis où il invoque le Seigneur, David est la cible d'attaques aussi virulentes que variées. De la part de qui? Verset 7 semble indiquer qu'il s'agit d'idolâtres, autrement dit, d'hommes qui ont choisi une autre priorité que le vrai Dieu dans leur vie. Et quelles épreuves ces idolâtres infligent-ils à David? D'abord, la calomnie. Verset 14, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Et puis verset 12, dans la traduction de la Nouvelle Bible Second, à cause de tous mes adversaires, je suis le déshonneur suprême de mes voisins, la frayeur de ceux qui me connaissent, ceux qui me voient dehors, s'enfuient loin de moi. D'où cette prière du roi, versets 18 et 19, que les méchants aient honte, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec orgueil et mépris. Première épreuve donc, la calomnie. Et vous-même comme moi, sommes bien placés pour savoir que la calomnie, c'est quelque chose de lourd à porter. La calomnie et puis le complot. Au verset 5 déjà, David parle de pièges qu'on lui a tendus. Au verset 14, de complot. Ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Non seulement donc on dit du mal de lui, mais encore on cherche à le supprimer. C'est dur. Très dur même pour quelqu'un comme David qui n'a pas cessé de se vouloir un fidèle du Seigneur. Sa situation, pourtant, n'a rien d'anormal. Souvenez-vous de ces paroles de Christ à ses disciples. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que le croyant n'est plus de ce monde. L'appel que lui a adressé le Christ a tout laissé. Propriété, bonheur, droit, justice, honneur, violence, pour le suivre, a fait de lui définitivement un étranger sur la terre. Quelqu'un de fondamentalement différent et dont la différence souligne trop nettement l'injustice ou non-justice des hommes pour ne pas leur être bientôt proprement insupportable. La douloureuse épreuve que connaît David ne doit donc pas surprendre, pas plus d'ailleurs que nos propres déboires, toutes les fois que nous cherchons à suivre fidèlement l'exemple de Christ. L'une comme les autres sont dans l'ordre. À nous, par conséquent, de les accepter et non pas de chercher à les esquiver au prix parfois de dangereuses compromissions. Voilà pour l'expérience de David. Une expérience si cruelle que pour un peu, il se serait cru abandonné du Seigneur. Je disais, dans mon trouble, confesse-t-il au verset 23, quelle honnêteté de sa part. Je suis chassé loin de ton regard. C'est dire l'immense désarroi dans lequel son épreuve l'a soudain précipité. Un désarroi qui ne l'empêche pourtant pas de rendre encore à son Dieu un hommage bouleversant. Que je propose d'examiner maintenant avec attention, car si le psaume 31 est bien d'abord l'écho d'une expérience douloureuse, il est aussi, il serait tenté de dire, surtout, l'écrin d'un témoignage lumineux. Un témoignage lumineux. David, nous l'avons vu, est aux abois. À aucun moment, cependant, il ne perd durablement de vue cette prodigieuse réalité. Le Seigneur est et reste son ami. Plus je lis ce psaume, et plus il m'apparaît nettement qu'il est avant tout une véritable célébration de l'amitié indéfectible du Seigneur. L'amitié indéfectible du Seigneur. Dieu, l'ami. L'ami de ceux qui le craignent, le respectent, l'honorent. L'ami de tous ceux qui ne cherchent qu'en lui leur salut. Oui, Dieu, l'ami. L'ami de David, notre ami. Et pas n'importe quel ami. Nous en voulons pour preuve l'admirable portrait que nous en fait ici le psalmiste. Pour qui le Seigneur est d'abord l'ami qui voit. L'ami qui voit. Entendez par là, celui qui est toujours tout proche, si proche que rien ne lui échappe. Il sait. Tu vois, écrit David au verset 8. Tu connais. Dieu, le compagnon de tous les instants. Dieu, l'intime. Une image que d'aucuns trouvent un peu gênante. Une image que, pour notre part, nous trouvons plutôt rassurante. Dieu est ici. Et il sait. Il sait quoi ? Tout. Et notamment, nous dit Jésus, ce dont nous avons besoin. Pour connaître sur cette terre déjà le bonheur véritable. Car est-il nécessaire vraiment de le rappeler, sa présence à notre côté est toujours celle d'un ami qui nous veut du bien mieux, qui ne veut que notre bien. Et me reviennent alors les paroles de ce beau cantique, « Mon Dieu est si bon, il prend soin de moi. » Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi ? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd. qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Pour David, donc, le Seigneur est d'abord l'ami qui voit et qui, parce qu'il voit, sait. Mais il est aussi l'ami qui entend. L'ami qui entend. Comprenez ici celui qu'il est toujours possible d'atteindre. Les grands, d'ordinaire, sont inaccessibles. Eh bien, Dieu, lui, on peut le joindre à tout moment, sans rendez-vous. Un mot seulement de notre part, et déjà, il est à l'écoute. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dieu aime être dérangé. À vrai dire, il n'est jamais plus aussi heureux que lorsque nous l'importunons. C'est son Fils qui nous l'a dit. Parce qu'il tient alors la preuve que nous avons compris, enfin, qu'il était vraiment notre ami. Et qu'à ce titre, il ne nous repousserait jamais. Nous sommes sa priorité. Oui, notre Dieu, l'ami que l'on peut toucher, l'ami qui entend les prières, toutes les prières, et qui se réjouit d'y répondre en faisant toujours, nous dit l'apôtre Paul, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Tu as entendu mes supplications, constate David au verset 23. Quand j'ai crié vers toi, tu as entendu. Émerveillement du psalmiste. Et comme nous partageons son émotion, j'aime l'Éternel, écrira-t-il bientôt, car il entend ma voix. Comment ne pas adhérer immédiatement à cette touchante confession, n'est-ce pas? Pour cette raison que nous aussi, nous sommes heureux de le connaître. Parce qu'il entend nos supplications et répond à nos prières. Le Seigneur, l'ami qui nous écoute, merveilleuse image qui nous fait dire avec David encore, puisqu'il a penché son oreille vers moi, puisqu'il entend ma voix, mes supplications, je ferai appel à lui tous les jours de ma vie. Pour David donc, Dieu est aussi l'ami qui entend, mais il est encore l'ami qui intervient, l'ami qui intervient. Et qui intervient surtout pour sauver. Il est le sauveur. D'où ce cri qui, sous une forme ou une autre, revient sans cesse dans la bouche de David, « Éternel, délivre-moi ». Mais moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je dis, « Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi ». Le Seigneur, l'ami qui s'approche, et qui s'approche pour secourir. Aucune des menaces qui pèsent sur les siens ne le laisse indifférent. Et il n'aura point de cesse qu'il n'ait éloigné d'eux et réduit à l'impuissance tous leurs ennemis. Notre Dieu est un Dieu qui se plaît à libérer et qui libère, qui nous libère, non seulement de ceux autour de nous qui nous veulent du mal, mais encore et surtout de ses adversaires autrement terrifiants que sont pour nous notre péché et son inévitable sanction, la mort. Oui, le Seigneur est celui qui nous délivre du mal, de tout mal, pour peu que nous l'appelions à notre secours. Car, faut-il le rappeler, son salut n'est jamais le partage que de ceux qui, avec David, prient pendant qu'il y en est encore temps, Éternel, délivre-moi. Le Seigneur libère, mais ceux-là seuls, qui s'en remettent entièrement à lui pour leur salut. Ceux-là seuls connaissent véritablement sa délivrance. Sauve-moi, implore David au verset 17. Par ta grâce, sauve-moi. C'est parce qu'il est miséricordieux, et pour cette raison seule, que Dieu délivre, David l'a bien compris, par ta grâce. D'où la nécessité pour nous de toujours considérer son salut comme, disons, une divine surprise, le cadeau totalement immérité que Dieu nous fait simplement parce qu'il est bon. Ça n'a rien à voir avec nous, mais tout avec lui, à cause de son nom. Simplement parce qu'il est bon. Verset 20. « Oh, combien ta bonté est grande !» dit David. « Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi. » Pour David, donc, Dieu est aussi l'ami qui porte secours. Mais il est encore l'ami qui protège. L'ami qui protège. D'où l'ardente prière du psalmiste, versets 2 et 3. « Éternel, je cherche refuge en toi. » Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Car, versets 4 et 5, tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon protecteur. David sait qu'il peut toujours compter sur le Seigneur pour l'abriter en temps de crise. Et il n'est pas le seul. Nous sommes plusieurs ici à partager son assurance. Oui, notre Dieu est un sûr refuge. Pour tous ceux qui aspirent à se sentir protégés, et c'est mon cas. Cela, en effet, nous révèle le psalmiste au verset 21, le Seigneur les cache dans l'abri de sa présence. Autrement dit, il les attire à lui pour qu'à son côté, ils se sentent en parfaite sécurité, sous sa tente, dit encore le psalmiste, chez lui donc. Qu'auprès de Dieu seul, écrira bientôt le psalmiste, je sois tranquille, qu'auprès de Dieu seul, je sois tranquille. Car de lui vient mon espoir. Lui qui est mon rocher et mon salut, ma citadelle, je ne vacillerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon abri est en Dieu. Mets en lui ta confiance en tout temps, peuple. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est un abri pour nous. Pause. Psaume 62. Pour le psalmiste, donc, le Seigneur est aussi l'ami qui protège, mais il est encore l'ami qui conduit. L'ami qui conduit à cause de ton nom, chante David au verset 4. Tu me conduiras, tu me dirigeras. L'utile rappelle que celui-là, si toute vie est une sorte de marche, la vie du croyant est un parcours guidé. Se confier dans le Seigneur, en effet, c'est s'assurer aussitôt la présence à son côté d'un guide, entièrement fiable, lui, parce que connaissant parfaitement la route, et suivre ce guide, c'est se garantir efficacement contre tout risque d'égarement. Ce ne sont pas les guides qui manquent autour de nous. Le monde a-t-il jamais été plus riche qu'aujourd'hui en conseillers, coachs, mentors et gourous de tout poil? Reste qu'un seul, est à même, aujourd'hui comme hier déjà et demain encore, de conduire les âmes vers et jusque dans la vie véritable, en leur apprenant à vivre juste dès à présent. Et ce guide suprême qui propose à tous de leur ouvrir le chemin du bonheur éternel, c'est le Seigneur, bien sûr, l'Éternel. Mon berger a déjà publié David, c'est l'Éternel, et je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison de l'Éternel pour toujours. Le Seigneur, donc, un guide unique et irremplaçable, dont nous ferions bien tous de suivre scrupuleusement les indications, histoire de ne pas prendre le risque terrible de passer à côté de la vie, tout simplement, parce qu'on croyait pouvoir trouver tout seul, et qu'on s'est trompé de route. Pour David, en tout cas, le choix est fait, et c'est avec jubilation qu'il peut dire à son Dieu, verset 4, tu me conduiras, tu me dirigeras. Et me reviennent alors à nouveau les paroles de ce cantique si simple et pourtant si beau. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus. Tu peux compter sur lui, il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Pour le psalmiste, donc, le Seigneur est aussi l'ami qui conduit dans la vie, qui conduit jusque à la vie. Mais il est enfin, et nous terminerons par là, l'ami qui réjouit. L'ami qui réjouit. D'où sa prière encore au verset 17, cette fois, « Fais briller ton visage sur ton serviteur. » Fais briller ton visage sur ton serviteur. Parce qu'il sait que son Dieu est un Dieu qui aime rendre heureux. Un Dieu lui-même bienheureux, nous dit l'apôtre Paul, qui ne se lasse pas d'offrir à tous les humains et à ceux qui se confient en lui en particulier, de venir partager sa joie. Je dis bien de venir partager. Car pour que sa joie nous inonde, il faut toujours nous approcher de lui. Ce n'est que lorsque nous nous tournons vers lui, ce n'est que lorsque nous tournons vers lui nos regards, pour le contempler dans tout l'éclat de ses innombrables perfections, que sa lumière commence de nous atteindre et que nous sommes rayonnants de joie, ou comme le traduit la Nouvelle Bible Seconde, que nous sommes enfin radieux, comme certains d'entre vous ce matin. Pas encore très nombreux, mais ça va changer d'ici quelques instants. Ça y est, radieux, radieux à cause de lui. Oui, le Seigneur, l'ami qui veut notre bonheur, et qui, pour l'assurer, ne s'est rien épargné, ni les efforts, ni les renoncements, pas même, nous l'avons rappelé tout à l'heure, le sacrifice de son Fils, son unique, offert à la croix au temps fixé, pour que nous fût enfin rendu la joie la plus haute, je dis bien la joie la plus haute qui se puisse concevoir, celle de sa communion, pour toujours synonyme de vie riche infiniment. David ne reconnaîtrait pas son Dieu dans le Dieu sombre que nous présente parfois. Nous non plus. Notre Dieu est un Dieu qui habite le bonheur et qui rêve de faire de vous, de faire de moi, des hommes et des femmes heureux. Heureux comme lui, heureux à cause de lui. Grâce à toi, chantait Anne, j'ai le cœur en fait. Grâce à toi. Mon allégresse, ma joie, écrit David au verset 8, notre traduction, je les trouve en ta grâce. Oui, le bonheur, psaume 23, verset 6, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce. Certes, il est éprouvé, notre ami David, il est éprouvé à la limite même de ses forces, mais ici encore, il sait que le Seigneur, son ami, ne tardera pas à lui rendre la joie perdu. Comme nous-mêmes savons ce matin que si le soir arrivent parfois les pleurs, le matin triomphe l'allégresse. Et ce parce que Dieu le veut ainsi. Tous n'aiment pas les happy ends, comme on dit. Le Seigneur, lui, si. Et heureusement. Comment autrement saurions-nous que notre histoire se terminera bien? C'est parce qu'il est notre ami plus soucieux de notre bien-être que n'importe qui d'autre. Qu'aujourd'hui, à l'image de David, nous sommes confiants. Le jour vient et voici, il est tout proche. Ou, étant enfin entré dans la présence immédiate de Dieu, une joie éternelle couronnera notre tête. La gaieté et la joie viendront à notre rencontre, nous assure le prophète Ésaïe, tandis que le chagrin et les gémissements, eux, s'enfuiront, détaleront. David donc, le Seigneur, un ami enfin qui se plaît à rendre heureux. Voilà pour le lumineux témoignage rendu par le psalmiste à la gloire de son Dieu. Il ne me reste plus maintenant qu'à dire à tous ceux qui, ici, connaissent cet ami merveilleux et espèrent en lui. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Verset 25. quelles que soient nos circonstances, nous pouvons compter sur l'amitié indéfectible de celui qui s'est lui-même engagé, personne ne l'y contraignait, à nous accompagner, nous écouter, nous secourir, nous protéger, nous conduire, et finalement, nous réjouir. Amen.